la parole de Dieu, mais sans que ça change vraiment quoi que ce soit dans leur vie. Ou certains vont dire, donne des bons principes pour vivre, mais il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Puis il y en a d'autres qui vont avoir une opinion un peu plus robuste, qui vont dire, non, la Bible, c'est un récit de mensonge. Ça a été utilisé pour opprimer les gens, pour opprimer les femmes, pour opprimer les faibles, les marginalisés. Ça a été utilisé pour faire des guerres de religion, etc. La Bible, c'est un livre qui devrait être remis là, dans le fond du placard, enterré, brûlé, puis qu'on n'en ait plus rien à faire. Alors, on a toutes sortes d'opinions dans notre société par rapport à ce qu'est la Bible. Cependant, cette question de « si Dieu existe, comment peut-on le connaître? » est fondamentale. Parce que si la façon de connaître Dieu, c'est nos impressions personnelles, nos impressions subjectives, si chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on élabore un peu selon notre propre système religieux, en fait, qui est Dieu pour moi? Eh bien, Dieu, il est comme ci, Dieu, il est comme ça, Dieu, il est en fond une meilleure version de moi-même. Alors, chacun d'entre nous, on va avoir un Dieu qui est différent l'un de l'autre, selon notre impression subjective. Mais alors, comment est-ce qu'on a vraiment Dieu ou on a comme notre idée de Dieu, si on se base sur nos impressions personnelles? On arrive, dans le fond, à une nécessité. Si on veut vraiment connaître Dieu, il y a une nécessité que Dieu se révèle à nous. On peut penser, bien, on cherche Dieu comme l'astronaute russe qui était le premier à aller dans l'espace et qui a dit fièrement en revenant, « J'ai été dans l'espace et je n'ai pas vu Dieu, donc Dieu n'existe pas. » Et c'était dans le communisme, le marxisme, c'est un élément important, qu'il n'y a pas de Dieu, que la religion, c'est quelque chose utilisé pour opprimer les gens. Mais est-ce que le fait de ne pas voir Dieu équivaut au fait qu'il n'existe pas? Non. Bon, c'était peut-être un peu simpliste, et des philosophes, des gens qui vont réfléchir, vont avoir toutes sortes de bonnes raisons, mais Dieu est précisément celui qui n'est pas détectable par la science. Ce n'est pas une question de science à savoir si Dieu existe ou pas, c'est une question de foi, c'est une question de philosophie. Alors la science ne peut pas nous dire s'il existe un Dieu ou pas, on est dans la métaphysique, au-delà de la physique. Il nous faut, certains ont dit, la raison humaine pour être capable de déceler si Dieu existe ou pas. Il existe de très bons arguments rationnels pour expliquer le fait que Dieu existerait. Cependant, ce n'est pas notre raison, ce n'est pas nos impressions subjectives qui vont être capables de pleinement nous révéler Dieu. La Bible nous révèle qu'on est tous tachés par le péché, que notre intelligence même est affectée. Et dans le fond, on a besoin, si on veut connaître Dieu, que Dieu se révèle à nous. Et Dieu s'est révélé à tous les êtres humains par la nature. Comme les psaumes disent, la nature parle d'un créateur, on voit dans la nature. Et la majorité des gens, d'une façon instinctive, sentent qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Ils sentent que ça ne peut pas être juste arrivé par hasard. Donc, il y a la création et il y a notre conscience personnelle, notre conscience du bien et du mal, notre révolte envers le mal et notre approbation du bien. C'est quelque chose qui est inné en nous. Ces deux choses-là, les théologiens appellent ça la révélation générale que Dieu a donnée à tous. Mais ce n'est pas nécessaire pour vraiment connaître Dieu. Pour ça, il fallait que Dieu se révèle d'une façon spécifique. Et on arrive finalement à là où je voulais arriver aujourd'hui. La façon que Dieu a choisi de se révéler aux êtres humains, c'est en leur parlant. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui a créé le monde, selon la Bible, en parlant. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a parlé et le monde a existé. Dieu s'est manifesté à la création par la parole. Et la Bible prétend être la parole de Dieu. Des paroles que Dieu a parlé à des hommes dans le passé, à travers plusieurs siècles, à 40 auteurs différents. Et que, même si c'était eux qui écrivaient, que c'était soit Dieu qui leur dictait, on va le voir un petit peu plus tard, Dieu qui guidait leurs pensées. Un des textes les plus importants de la Bible, qui parle de la Bible elle-même, est le texte qu'on va regarder aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Avant notre conférence sur la réforme la semaine passée, on a terminé une série dans Tite. Eh bien, 2 Timothée, c'est le livre juste avant. Dans les derniers livres du Nouveau Testament, un peu avant Hébreux. De Timothée 3, les versets 14 à 17, va être notre texte d'aujourd'hui. Alors, ce texte nous présente quatre raisons pour lesquelles je crois, et la Bible présente être la révélation de Dieu, la plus plausible et la plus glorieuse, parmi tous les autres livres religieux qui prétendent eux aussi à une inspiration divine. La Bible est unique en ces quatre points-ci, tels qu'on le voit dans ce passage-ci. On voit dans 2 Timothée 3, 14 à 17, quatre raisons pour lesquelles la Bible est le livre le plus extraordinaire, ce qui sera le nom de notre série. La première raison, je vous les défile et ensuite on va les regarder rapidement une après l'autre. D'abord, le message central de la Bible est le salut de Dieu. Comment Dieu a tout fait pour nous réchapper de notre rébellion et notre perdition. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que la Bible est inspirée de Dieu et donc absolument digne de notre confiance. La troisième, que la Bible est sage et puissante pour nous diriger. Et la quatrième, c'est que par la Bible, Dieu veut transformer nos vies pour sa gloire et notre bien. Tout d'abord, le premier point, avant d'aller dans les points, on va lire le texte, on va prier, puis ensuite on va regarder ça ensemble. Je lis la parole de Dieu, 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Paul dit à Timothée, « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Prions. Seigneur, alors qu'on ouvre ta parole ce matin, imprègne-la sur nos cœurs. Imprègne en nous un profond respect pour elle, un profond désir de te connaître par elle. On prie, Seigneur, que tu puisses nous encourager à te voir, à te contempler, à t'adorer. À travers ta parole. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Alors, le premier point, la première raison de ce texte pour laquelle la Bible est le livre le plus extraordinaire est qu'au cœur de la Bible, son message central est l'histoire du salut de Dieu. Comment Dieu a tout fait pour nous réchapper de notre rébellion et de notre perdition. Les versets, on voit ça dans les versets 14 et 15. Paul dit à Timothée de tenir ferme dans les enseignements qu'il a appris, sachant de qui il les a appris. On voit au chapitre 1 que Timothée a été éduqué par sa mère, a été éduqué dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, par sa grand-mère Loïs et par sa mère Eunice. Timothée, son père n'était fort probablement pas chrétien, son père était un grec. Timothée n'avait pas été circoncis selon l'alliance que Dieu avait donnée à Abraham. Alors, c'est lorsqu'il est devenu chrétien et que Paul voulait l'amener comme missionnaire avec lui auprès des Juifs qu'il a encouragé Timothée à se faire circoncire. Mais Timothée, donc, même si son père n'avait pas été chrétien, sa mère et sa grand-mère avaient eu une grande influence sur lui, et Paul lui-même. Et Paul lui dit de tenir ferme dans la parole. Et il dit au verset 15, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Le message central de toute la Bible est le message du salut par la foi en Jésus-Christ. Un message préparé par les prophètes, annoncé déjà d'une façon voilée dans le Jardin d'Éden, dès la chute, Dieu qui avait créé l'homme et la femme, qui avait créé le monde, tout était très bon. Mais nos premiers parents déjà se sont rebellés contre Dieu, ont voulu choisir eux-mêmes le chemin de leur vie, ont voulu choisir eux-mêmes comment ils voulaient vivre leur vie, ont voulu choisir eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal. Et ça, c'est la racine du péché. Vouloir se placer nous-mêmes comme Dieu. Vouloir nous-mêmes choisir ce qui est bien, ce qui est mal pour nous. Et depuis ce temps-là, l'humanité a été plongée. Le terme qu'on utilise pour ça, c'est la chute. Le péché a corrompu notre monde et corrompu chacun de nos cœurs. Et Dieu aurait pu nous laisser dans notre état de perdition et nous condamner justement à l'éternité loin de lui. Cependant, dès le début, avant même la fondation du monde, comme on l'a lu dans Éphésiens 1 ce matin, Dieu avait élu des gens pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient rachetés, avait prévu envoyer son Fils Jésus-Christ. Et ce message du salut, c'est un message du salut non pas par nos efforts, non pas par notre piété, non pas par notre obéissance, mais c'est un salut qui vient par la foi, qui est gratuit. Comme on l'a entendu très bien la semaine passée, comme mon père l'a exposé dans Romains 3, chapitre, versets 21 à 26. Ce salut est par la foi seul. Pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés, qui placent leur confiance en Jésus seul pour être réconciliés avec Dieu, Jésus nous promet la vie éternelle, le pardon de nos péchés, et une vie déjà, une vie éternelle qui commence déjà maintenant sur terre. Une relation personnelle avec Dieu. C'est le message clé de toute la Bible. C'est Christ est le cœur de la loi. Christ, Jésus est le cœur de toute la Bible. C'est pour ça que, qu'on soit dans le Nouveau Testament, qu'on soit dans l'Ancien Testament, Jésus disait que toute l'Écriture parle de moi. Et pour bien comprendre la Bible au complet, il faut voir comment toute la Bible pointe vers Jésus-Christ. Car lui est le cœur de la Bible. Il est le cœur de la foi chrétienne. Et ce sont les Saintes Écritures qui nous révèlent ce que Jésus a fait. C'est la Bible qui nous raconte ce que Jésus a fait pour nous, sa mort, sa résurrection, qui est disponible pour ceux qui se repentent et qui croient en lui. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tu es en paix avec Dieu? As-tu été réconcilié avec Dieu? Le moyen que Dieu a pourvu est en Jésus seul. Il est disponible pour toi ce matin, si tu désires venir à lui, lui laisser ta vie. La deuxième raison pour laquelle la Bible est le livre le plus extraordinaire, c'est parce que la Bible est inspirée de Dieu. C'est ce que la Bible prétend d'elle-même. On n'est pas en train de prendre la Bible et de dire « Ah, oh, il y a des bonnes choses religieuses là-dedans. Ça doit bien être inspiré de Dieu. Il doit bien avoir quelque chose de bon là-dedans. Probablement qu'il y a quelque chose... Ça doit bien être de Dieu. » La doctrine de l'inspiration des Écritures vient de la Bible elle-même. La Bible s'interprète elle-même. Et ici, on a probablement on a un des passages les plus clairs, au verset 16, où Paul dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. » Alors, ça vaut la peine, par contre, de se poser la question, à chaque fois qu'on lit la Bible, qu'est-ce que ça voulait dire pour les auteurs dans son contexte original? Et lorsque Paul a écrit ça, parlant de toute l'Écriture, est-ce qu'il parlait de sa lettre même qu'il est en train d'écrire? Probablement pas, parce que le Nouveau Testament n'avait pas fini d'être complété non plus, mais le Saint-Esprit inspirait Paul alors qu'il écrivait ça. Paul parlait de l'Ancien Testament. Il parlait des 39 livres, la loi de Moïse, les livres historiques, les livres poétiques, les psaumes, les proverbes, tous les prophètes. L'Ancien Testament, les 39 livres, le canon de l'Ancien Testament tel qu'il avait été reconnu par les Juifs, reconnu par Jésus. Alors, c'est de ça que Paul parle en disant « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. » Combien de fois dans l'Ancien Testament est-ce que l'Ancien Testament lui-même prétend être la parole de Dieu? Combien de fois est-ce qu'on a « Ainsi parle l'Éternel » dans les livres de Moïse, dans les prophètes ou oracles de l'Éternel? Dieu parle. Dieu parle par la Bible. Et c'est ce que la Bible affirme être. Elle est la parole de Dieu. Et on a ce témoignage non seulement de l'Ancien Testament, mais Jésus lui-même a rendu témoignage à l'Ancien Testament. De nombreux endroits, dont dans Matthieu 5, verset 18, où je vais lire 17 et 18, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » En effet, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Et Jésus, alors qu'il priait, avant d'être emporté pour être crucifié dans Jean 17, ce qu'on appelle la prière de prêtre de Jésus, la prière sacerdotale, Jésus prie et dit, il demande à Dieu, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jésus nous porte témoignage que l'Ancien Testament est la vérité, est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le Nouveau Testament? Est-ce que le Nouveau Testament est inspiré de Dieu? Parce que le Nouveau Testament dit, l'Ancien Testament est inspiré de Dieu, mais est-ce que le Nouveau Testament dit de lui-même qu'il est inspiré de Dieu? Eh bien, j'aimerais attirer votre attention à deux passages qui aident à répondre à cette question-là. Tout d'abord, avant de tourner dans notre premier passage, où vous pouvez y tourner, c'est dans Jean 14, verset 26, si vous voulez y aller. Dans les Évangiles, on voit Jésus affirmer des choses assez intenses. Jésus affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus affirme qu'il est la lumière du monde. Jésus affirme que lui et le Père sont un. Jésus affirme toutes sortes de choses qui seraient blasphématoires si Jésus n'était pas Dieu. Il a affirmé être le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Mais Jésus n'a pas fait comme n'importe qui qu'on pourrait voir dans la rue qui pourrait affirmer des choses comme ça et qu'on dirait « bon, c'est un illuminé » ou « c'est un charlatan ». Jésus a, comme on dit en québécois, il a backé ses paroles. Il a démontré la véracité de ses paroles en multipliant les miracles, en multipliant la nourriture, en guérissant les malades, en chassant des démons, en ressuscitant des morts, en affirmant qu'il avait le droit de pardonner les péchés, en calmant la tempête. Jésus a fait toutes sortes de miracles du jamais vu. Et si Dieu n'était pas derrière lui, et si Jésus affirmait toutes sortes de choses qu'il n'avait pas d'affaire à affirmer, comment est-ce qu'il aurait pu produire tous ces miracles? Et le plus grand miracle que Jésus a accompli, c'est qu'il a annoncé d'avance qu'il allait mourir et ressusciter des morts le troisième jour, et il l'a prouvé en mourant à notre place et en ressuscitant des morts le troisième jour. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de monde qui sont ressuscités des morts. Pas encore, hein? Serge dit... Alors, moi, j'en connais pas. Et il y a peut-être des gens qui ont été, qui ont expérimenté, en anglais, on a le terme, le « near-death experience », une expérience où on était près de la mort. Mais quelqu'un qui a été mort, enterré, trois jours, ressuscité, Jésus est le seul ou les autres morts que Dieu a ressuscités. Mais Jésus a affirmé qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu lui-même. Il est mort et il a prouvé ces choses qu'il avait affirmées en ressuscitant d'entre les morts. Et c'est un des éléments historiques les plus difficiles à expliquer, que comment est-ce que l'Église a commencé? Comment est-ce qu'on a des lettres de Paul 15 ans après la résurrection, que les spécialistes sont d'accord pour dire « Non, ça, c'est officiel, ça, c'est l'apôtre Paul. Paul était un persécuteur d'Église. Il s'est converti au christianisme et dans ses lettres, 15 ans après la résurrection, affirme des choses comme Jésus est Dieu et Jésus est mort et est ressuscité. Alors, on n'est pas dans quelque chose qui a été écrit 100 ans après, là. 200 ans après, un canon des évangiles, des 3-4 générations après que les légendes se sont amplifiées. L'Église a débuté et il y a eu des changements faramineux chez Paul, chez les apôtres. C'est un sujet sur lequel j'ai prêché à Pâques il y a 2 ans, mais comment est-ce que l'histoire de Pâques, de la résurrection, n'est pas vraiment explicable? Ou l'histoire du début de l'Église n'est pas vraiment explicable si Jésus n'est pas vraiment ressuscité? Alors, Jésus a affirmé toutes sortes de choses pendant son ministère, l'a prouvé en ressuscitant d'entre les morts. Et une des choses que Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 14, 26, nous aide à avoir confiance que les livres du Nouveau Testament sont bel et bien inspirés et véridiques. Jésus a dit à ses disciples, « Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus annonçait d'avance qu'il enverrait l'Esprit Saint à ses apôtres, que l'Esprit Saint guiderait ses apôtres, leur enseignerait toutes choses et leur rappellerait ce que Jésus avait dit. Jésus a dit toutes sortes de choses impressionnantes. Il l'a prouvé en mourant et ressuscitant d'entre les morts. Il a dit qu'il enverrait son Esprit, qu'il guiderait ses apôtres dans la vérité. Moi, je fais confiance à Jésus. Jésus a dit, il l'a affirmé, alors j'ai confiance que l'Esprit-Saint a bel et bien dirigé les apôtres dans leur écriture du Nouveau Testament. Et un autre texte important, c'est le deuxième texte auquel je vais tourner rapidement, c'est dans 2 Pierre, si vous voulez tourner avec moi, c'est juste un petit peu plus loin, après Hébreu, si vous avez encore un doigt dans 2 Timothée. Un petit peu après Hébreu, 2 Pierre, chapitre 3. On va commencer avec les versets 1 et 2. Ce qui est intéressant ici, c'est que Pierre va mettre les écrits de l'Ancien Testament à côté, où il va amener les paroles des apôtres et les écrits des apôtres au même niveau que les écrits de l'Ancien Testament. Pierre dit, « Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » Alors, il parle des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres. Il les met au même niveau et il demande aux gens à qui il écrit de se rappeler de ces deux sources d'autorité. Et encore plus loin, ce qui est probablement le passage le plus intéressant et peut-être réconfortant pour certains d'entre nous, au verset 15, dans le même chapitre, Pierre dit, « Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres Écritures pour leur propre ruine. » Donc, Pierre est en train de dire, Paul a parlé du retour du Seigneur Jésus, de sa patience, etc. Puis il dit, Paul en parle dans toutes ses lettres, et il y a des personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens des lettres de Paul. Et Pierre dit qu'ils sont d'ailleurs pas toujours faciles à comprendre. Donc, si vous trouvez les lettres de Paul parfois pas faciles à comprendre, eh bien, Pierre est avec nous là-dedans. À des fois, à trouver les lettres de Paul pas faciles à comprendre. Il dit, s'y trouvent certes des points difficiles à comprendre, les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres Écritures pour leur propre ruine. L'expression ici, les Écritures, c'est l'expression qui rapporte à la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes, c'est l'expression qui parle de l'Ancien Testament. Et Pierre parle des lettres de Paul. Comme, il parle de l'Ancien Testament comme les autres Écritures, ce qui implique qu'il considère les lettres de Paul comme les Écritures de Dieu. À un niveau égal, au même niveau, Paul inspiré par l'Esprit de Dieu en tant qu'apôtre envoyé par Dieu. On retourne dans 2 Timothée. On va finir rapidement. 2 Timothée 3, le mot ici, au verset 16, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. » Ça, c'est un seul mot en grec. René Frey aimait nous le rappeler, le mot « Theopneustos », qui suffit comme « insufflé par Dieu » ou « soufflé par Dieu ».« Soufflé par l'Esprit de Dieu ». René disait « spiré », il inventait le mot là, comme l'esprit, c'est spiré par Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu que nous est venue toute l'Écriture. De quelle façon est-ce que ça s'est fait? Bien, dans certains cas, Dieu a dicté sa parole directement aux écrivains humains. Si vous vous souvenez de l'histoire de Balaam dans Nombre, Balaam voulait venir maudire le peuple d'Israël, mais l'Esprit de Dieu descendait sur lui et il faisait juste dire des bénédictions, il n'était pas capable de s'empêcher. Alors, dans certains cas, l'Esprit de Dieu venait sur ses prophètes et il parlait un peu, pas vraiment de leur propre volonté, mais ça leur était dicté par Dieu. Dans Apocalypse 2 et 3 aussi, on voit Jésus qui parle aux églises, qui dit à Jean, « Réécris ça! » Donc ça, il y a des parties de l'Écriture qui ont été dictées par Dieu. Mais il y a d'autres parties aussi qui ont on dit qu'ils ont été supervisées par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est des cas où Dieu s'est servi de la personnalité de leur auteur, les a guidés et a préservé leur pensée tout en ce qu'ils gardaient leur liberté humaine. Mais Dieu s'est arrangé pour que tout ce qu'ils écrivent soit parfaitement ce qu'ils voulaient. On a encore, on voit ça souvent dans la Bible, un genre de paradoxe entre la liberté humaine et la souveraineté de Dieu. Et elles sont main dans la main dans l'inspiration de l'Écriture. Dans plusieurs des livres, probablement la majorité de la Bible, Dieu l'a inspiré de cette façon-là. Notre troisième raison maintenant pour laquelle la Bible est le livre le plus extraordinaire, c'est que la Bible est sage et puissante pour nous diriger dans nos vies ici-bas. Le verset 16 disait « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu » et ensuite, notre section ici, « utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute Écriture est utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. On pourrait peut-être prendre le premier et le quatrième, les mettre ensemble. C'est peut-être quelque chose de positif que Dieu veut nous enseigner. Qui sont nos enseignants aujourd'hui? Qui sont les gens qui nous apprennent à réfléchir, les gens qui nous apprennent à vivre? Certainement que nos parents ont eu une influence sur nous. Peut-être que nos parents ont toujours une grande influence sur nous, mais de quoi est-ce qu'on se nourrit? Qui est-ce qui instruit notre vision du monde? Est-ce que c'est la radio qui nous enseigne comment réfléchir? Des sites Internet qu'on aime bien? Les nouvelles? Les journalistes? Les émissions de télé? Qui est-ce qui nous apprend à vivre? Qui est-ce qui est notre modèle pour notre vie? Malgré qu'on ne cherche pas nécessairement un enseignement, ce que nous entendons et ce que nous voyons a une grande influence sur notre cœur. Et nous avons besoin, plus que jamais, frères et sœurs, aujourd'hui, en 2017, une source d'enseignement sûre et pure. La Bible offre une analyse beaucoup plus pénétrante des événements de notre monde que les journalistes et les chroniqueurs. Vous voulez la vérité? Celle qui compte le plus est celle qui se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Laissons-la. Allons vers la Bible pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous apprendre à vivre. Ça, c'est l'aspect peut-être positif. Et il y a les deux verbes du milieu, convaincre et corriger, on pourrait les appeler peut-être négatifs, qui veulent nous replacer dans notre, dans ce qu'on croit. Peut-être dans ce qu'on croit et qu'on a, on dit croire, ou peut-être dans ce qu'on croit vraiment. Vous savez, on est tous des théologiens. On a tous une théologie, une façon de voir le monde, une façon d'interpréter le monde. Et si vous êtes à l'Église, que vous êtes chrétien depuis longtemps, notre confession de foi de l'Église, peut-être qu'on va tous dire « oui, ça c'est notre théologie, c'est ce qu'on croit ». Eh bien, on peut faire une distinction utile entre la théologie professée et la théologie réelle, la théologie de notre cœur. On peut dire qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est notre seul guide, qu'elle est le meilleur guide, que Dieu nous parle à travers elle. Mais dans notre vie, si c'était vraiment, vraiment, vraiment vrai, est-ce qu'on ne ferait pas notre vie un peu différemment? Est-ce qu'on ne la chercherait pas beaucoup plus? Est-ce qu'on ne voudrait pas aller vers la Bible avant d'aller vers la radio ou la télé pour nous apprendre comment vivre dans ce monde? Ou avant d'appeler nos parents, ou peu importe. Si la Bible est vraiment la parole de Dieu, si elle est notre source la plus sûre d'enseignement, de direction pour nous guider dans cette vie, alors notre vie, elle va être transformée. En tout cas, alors on a notre théologie réelle, on peut toujours affirmer toutes sortes de choses. On peut toujours affirmer toutes sortes de choses, mais comment est-ce que notre vie reflète ça? Ça nous donne une loupe pour inspecter notre cœur. Qu'est-ce qu'on croit vraiment? Vous savez, la correction, être repris par la Bible, c'est une bonne chose. Parfois, on n'a pas le goût d'aller dans la Bible parce qu'on veut faire comme Adam et Ève, on veut faire notre vie à notre propre façon. On veut vivre comme ça nous tente. On n'a pas vraiment le goût de se faire reprendre, on n'a pas vraiment le goût de se faire corriger. Des bons parents vont reprendre leurs enfants. Des bons parents vont corriger leurs enfants. Ça fait partie d'être des bons parents, de les reprendre paisiblement, mais fermement, parce qu'ils les aiment. Dans Hébreux 12, versets 5 et 6, l'apôtre qui l'a écrit cite Proverbe 3 en disant « Mon fils, on pourrait dire ma fille, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » Un bon entraîneur de sport va apprendre au joueur de hockey comment bien placer ses mains sur son bâton. Il va lui apprendre à bien patiner. Et s'il patine les genoux vers l'intérieur, les pieds vers l'extérieur, il va lui apprendre à avoir une bonne posture et il va le corriger. Un professeur de danse va corriger ses élèves. Un professeur de musique va corriger, va reprendre. Moi, j'ai eu besoin, à 18 ans, de réapprendre à tenir mon archet parce que mes professeurs, avant, ne l'avaient pas fait. Alors, ça m'a pris... j'avais tendance à tenir mon pouce comme ça. J'ai dû réapprendre et c'était de la grosse job, là. On pourrait dire, mais c'est pas grand-chose, ta main comme ça et hop, comme ça. Mais c'était pénible. J'avais joué comme ça pendant... Ça faisait 10 ans que je jouais du violon, de cette façon-là. Et là, mon professeur, on a pris un temps, j'étais au camp musical, puis là, c'était comme notre objectif numéro un de la semaine, j'allais réapprendre à tenir mon archet comme il faut. Et ça a fait une drop dans ma capacité à jouer du violon. Alors, pendant plusieurs jours, j'étais presque inapte. Je faisais des cordes à vide, des gammes, des choses bien simples. Puis tranquillement, pas vite, j'ai pu regagner le niveau où j'étais et j'ai même pu le surpasser parce que ça me donnait plus de flexibilité. En tout cas, mon professeur m'avait corrigé, m'avait repris, m'avait réenseigné pour que je puisse jouer mieux, pour que je puisse être un meilleur violoniste. Le Seigneur nous corrige pour notre bien, pour qu'on puisse porter plus de fruits pour sa gloire. Il veut nous corriger par sa parole parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut qu'on soit des meilleurs musiciens à sa gloire. Il veut qu'on soit des meilleurs danseurs pour sa gloire, des meilleurs artistes pour lui, pour le servir. Le quatrième point, je vais juste le mentionner, c'est ce qu'on voit au verset 17, que toute écriture est utile. Je vais relire le verset 16 qui nous mène au verset 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Le Seigneur veut transformer nos vies. Il veut qu'on puisse être, qu'on puisse abonder en bonnes œuvres. Le Seigneur nous a sauvés, comme on le voit dans Éphésiens 2, par grâce, pas par les œuvres, mais en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les pratique. Dieu nous a donné sa parole pour nous guider, pour nous donner sa sagesse, sa puissance pour vivre dans ses voies, pour produire du fruit, pour nous transformer. Alors, j'aimerais vous laisser avec trois rapides applications. La première, c'est celle que Paul dit à Timothée au début du verset 14. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris. Je vous dis, frères et sœurs, tiens ferme sur la parole de Dieu. Il n'y a aucun livre comme la Bible. Il n'y a aucun livre comme la Bible. Il est le seul qui peut nous montrer le chemin du salut. Il est le seul qui est inspiré de Dieu, sans erreur, qui est pleinement la vérité. Il est le seul qui nous donne la sagesse, qui nous dirige avec sagesse, avec puissance pour diriger nos vies. Il est le seul qui peut transformer nos vies pour la gloire de Dieu. Lorsque tu ne comprends pas un commandement ou une déclaration de Dieu, fais-lui confiance qu'il sait mieux que toi, qu'il sait mieux que moi, qu'il sait mieux que notre siècle, qu'il sait mieux que notre société. Fais confiance au Seigneur que par sa parole, il est plus sage que toi. Ça, c'était notre première application. Tiens ferme sur la parole de Dieu. La deuxième, elle suit nos versets. C'est prêche la parole. Et continuez avec moi, on va lire juste 2 Timothée 4, versets 1 et 2. Tout de suite, en sortant de ça, de ce passage où Paul y parle, que l'Écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour nous. Il dit, c'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. La raison pour laquelle à l'Église, ici, on enseigne la Bible, c'est parce qu'on croit que c'est elle seule qui a ce pouvoir-là de nous transformer. C'est elle seule qui nous livre la pensée et la volonté de Dieu. Paul nous dit, parce que la Bible est inspirée de Dieu, qu'elle est le seul livre vraiment vrai, parce qu'elle est si extraordinaire, elle doit être au cœur de notre Église. Et nous devons tous la témoigner, nous devons tous la partager, les uns avec les autres, avec l'extérieur. Quelle application incroyable du fait que la Bible est la parole de Dieu. Prêchons la parole. Troisièmement, je t'invite à faire le défi avec nous dans les 14 prochains jours. On commence demain. Si vous voulez, vous pouvez toujours... Si vous voulez, vous pouvez toujours commencer aujourd'hui. Comme ça, ça va vous donner un jour de lousse dans les deux prochaines semaines, si jamais il y a un jour que ça ne marche pas. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Puis le texte du jour 1 va vous être familier. C'est 2 Timothée 3, 14 à 17. Le texte de ce matin. Alors, vous pouvez commencer aujourd'hui, vous pouvez commencer demain. Si vous faites aujourd'hui, vous avez un jour de lousse. Mais on veut finir ensemble dans deux semaines. C'est 14 jours ensemble dans la Bible. On va être encouragés en étant dans la Bible ensemble, dans les messages des semaines suivantes aussi, à prendre des bonnes habitudes d'être dans la parole, de lire la Bible. Et ne le faisons pas juste de façon humaine, parce que c'est le défi de l'Église, parce que pour plaire aux hommes, pour me plaire ou pour plaire à qui que ce soit, ou par orgueil de l'avoir fait. Ah, moi, je suis capable de faire ça. J'ai assez de volonté humaine pour être capable de le faire. Ou par sentiment de culpabilité. Ah, ouais, c'est vrai, je lis pas ma Bible. Ah, ouais, OK, je vais lire ma Bible pour essayer de me sentir moins coupable. Lis ta Bible pour rencontrer Dieu. Lis ta Bible pour rencontrer Dieu. Ouvre-la et prie pour que Dieu te donne le cœur prêt à être enseigné, convaincu, corrigé et instruit dans la justice. Le livre est la Bible est le livre le plus extraordinaire, je résume, parce qu'elle seule nous enseigne le moyen d'être sauvés. La Bible est extraordinaire parce qu'elle est inspirée de Dieu et donc absolument digne de notre confiance. La Bible est extraordinaire parce qu'elle est sage et puissante pour nous diriger. Et la Bible extraordinaire est extraordinaire parce que par elle, Dieu veut transformer nos vies pour sa gloire et notre bien. Soyez bénis.